Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone, ce podcast de hockey que nous faisons comme ça deux fois par semaine. Merci d'être là avec nous, avec toute l'équipe de la presse aussi. Je vous présente immédiatement les panélistes pour l'émission d'aujourd'hui. Jérémy Rainville du 98.5. Salut, Jer.
Salut, Philo.
Et du côté de la presse, Guillaume Lefrançois. Salut, Guillaume.
Salut, Jérémy.
Et Alexandre Pratt aussi. Salut, Alex.
Salut, Philo.
Alors, messieurs, premier petit moment difficile pour le Canadien cette saison. On en avait glissé un petit peu un mot lundi. Déjà, on avait commencé à trouver que les deux matchs contre les Sénateurs étaient pas extraordinaires, mais là, on peut le dire officiellement. Là, on est dans un petit creux de vague chez le Canadien de Montréal. Disons que on ne semble pas avoir le même aplomb qu'on avait au début de la saison, notamment là dans les quatre derniers matchs du Canadien. Jérémy, un petit commentaire général là-dessus?
Je crois que c'est le temps de fouiller dans son grand sac de clichés et sortir le fameux mot. C'est une slump pour le Canadien présentement. Quatre matchs consécutifs où le niveau d'intensité n'est pas là. Moi, honnêtement, le résultat victoire-défaite, je pense que ça varie beaucoup selon... tu sais, il y a un facteur momentum, il y a un facteur lancé.
Mais un peu de chance aussi.
Chance, à la limite. Mais il y a une chose pour moi qui est pas pardonnable, c'est le niveau de compétition. Et depuis quatre matchs, on voit que le Canadien n'a pas le même niveau de compétition, que ce soit pour l'intensité au porteur de la rondelle, l'intensité pour gagner le bâton un contre un, mais également l'intensité pour rester concentré pendant 60 minutes de jeu, qu'on prenne les bonnes décisions. Et ce que je trouve présentement chez les Canadiens, puis on l'a vu dans le match d'hier, dans cette défaite de 3-0 face aux Oilers d'Edmonton, les gars sont fancy, là. Tu sais, on est fancy, là. Je pense qu'on trouve qu'on n'est pas pire, puis on est un petit peu fancy. Fait que, tu sais, des fois, faire les choses simples, ça pourrait peut-être porter fruit pour le Canadien, mais vraiment, je pense que ça se corrige, mais il va falloir que, comme Carbonneau disait, s'ils travaillent pas, ils gagneront pas.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est de même.
C'est ça. Alexandre, là-dessus?
Ouais, je trouve que l'équipe est pas mal au neutre. Ces temps-ci, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ne produisent juste plus, en fait, que... Il n'y a plus rien, ni en attaque, puis en défensive, ça va pas super bien. T'sais, on en a parlé dans le balado de lundi, mais t'sais, je trouve qu'au centre, ça devient de plus en plus difficile. Ouais. On s'était dit au début de l'année qu'on allait voir... le Canadien allait se rendre aussi loin que sa ligne de centre. Mm-hmm. Sa ligne de centre avait bien parti l'année. Là, ça commence à être très difficile. T'sais, Kotkaniemi, dans les quatre derniers matchs, aucun point. 35% mis au jeu. Ça va pas très bien non plus, je trouve, personnellement, pour... Jake Evans, là, je sais qu'il y en a qui le préfèrent, puis c'est vrai qu'au sein des mises au jeu, ça va plutôt bien, mais ça reste des joueurs qui ne produisent rien présentement. J'ai des petites inquiétudes. J'ai hâte d'avoir en fait comment le groupe de vétérans, parce que cette équipe-là est construite quand même autour de joueurs d'expérience, va être capable là, de trouver des solutions là, pour sortir de cette première de ce premier creux de vague.
Guillaume?
Ben, ça reste que c'était un peu à prévoir. Je pense que tout le monde savait que cette équipe-là n'était pas aussi forte que ce qu'elle nous avait montré dans les 10 premiers matchs. Réponse plate, mais je pense aussi que cette équipe-là n'est pas aussi mauvaise que ce qu'on a vu dans les 4 derniers. La vérité se trouve à quelque part dans le milieu. Ce qu'il faut pas oublier, là, c'est que on assistait à un début de saison qui avait l'air véritablement d'un camp d'entraînement. Donc, ça nous a peut-être amené justement à surestimer pas simplement l'équipe du Canadien en général, mais aussi certains éléments en particulier. Justement, Alex, tu parlais de Kotkaniemi, ben c'est ça, c'en est peut-être un, dont la progression, ben de la façon que le début de saison se déroulait, on a peut-être surestimé un petit peu sa progression, tu sais. Oui, Kotkaniemi, ça va moins bien. En même temps, je crois pas qu'il soit, tu sais, il est pas non plus retombé à son niveau de la saison dernière, là. Il est pas retombé non plus aussi bas que ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, il y a une espèce d'ajustement, puis je pense qu'on va apprendre de plus en plus à voir c'est quoi le vrai visage de cette équipe-là, là, au fil des jours.
Là. Ben, moi, messieurs, là, je vous écoute. La seule chose qui me vient en tête, c'est que, je veux pas dire que c'est facile de regarder les jeunes au centre. Vous avez raison que les gars ont de la misère dans le cercle de mise en jeu. Vous avez raison que, tu sais, Suzuki est pas l'ombre de lui-même comparativement à ce qu'il était en début d'année. Tu sais, vous avez raison de dire qu'il y a pas de production offensive. Mais sincèrement, là, si vous regardez comme faux, là, les défenseurs sont mauvais, là, présentement chez les Canadiens. Tu sais, on est mauvais. Premièrement, tu sais, contre les Oilers, là, je veux juste revenir contre les Oilers, puis on l'a vu contre les Leafs de Toronto aussi. On donne tellement d'espace en zone neutre. Les gars rentrent, là, dans la zone du Canadien.
Sans problème.
Comme le premier match match face aux Leafs parce que on est sur les talons. McDavid hier un coast to coast, il est rentré comme il voulait.
Ouais, sauf que là le Canadien n'est pas la première victime.
C'est le meilleur joueur de la ligue aussi.
Oui, d'accord avec vous, mais je donne juste l'exemple de cette crainte là de se faire passer. On a vu Shea Weber payer le prix, on a vu Edmondson payer le prix également contre les Leafs de Toronto avec un fameux ankle break. Je pense que c'est face à Mialev ou quelque chose comme ça. Défensivement là, ça fonctionne pas présentement. Dans leur zone, la rondelle elle sort pas. Que ce soit Jeff Petrie, que ce soit Edmondson, que ce soit Ben Sherratt connaît des difficultés, Shea Weber connaît des difficultés, Romanov connaît des difficultés, Kulak connaît des difficultés. Fait qu'à partir de là, je comprends qu'on regarde le manque de production offensive.
Oui, parce que là, c'est ça, là, c'est qu'il n'y a pas de but. Là.
Non, mais c'est ça qui
nous saute aux yeux.
On fait un comparatif avec ce qu'on a vu en début d'année, mais là, présentement, ce club-là est juste disloqué. Il y a plus de groupe de cinq sur la patinoire. Il y a des défenseurs qui mettent ça par la bande, puis t'as des attaquants qui trichent pour aller marquer. Tu sais, à un moment donné, un peu d'humilité,
puis on
revient
ensemble. Il y a Sherratt qui essaie, hein. Sherratt essaie. Il essaie de faire des montées, là, ces jours-ci.
Oh, il faut pas qu'il fasse
comme
ça.
Comme un quatrième attaquant. C'est pas toujours réussi. D'ailleurs, tu l'as souligné, là, il connaît une passe difficile. Quand même 5 punitions là dans ces 4 derniers matchs, puis c'est des punitions qui font mal, tu sais, qui mettent le Canadien dans des positions où c'est difficile de remonter par la suite. Tu sais, il joue très très haut ces temps-ci, il revient, il se ferait prendre à contre-pied, c'est vraiment un mauvais positionnement, des mauvaises punitions. Puis oui, on sent aussi que chez Weber, ça fait des années qu'on n'en parle, est-ce que l'âge va le rattraper? Ben tu sais, au niveau du coup de patin, je trouve que ça commence à apparaître quand même un petit peu là.
Mais oui, t'as raison, mais je pense que le groupe a tellement de difficultés que c'est juste pire ce qu'on voit présentement. T'sais, il faut qu'on commence à m'emmener à jouer un petit peu plus serré, attaquant et défenseur ensemble, ce qu'on voit pas du tout. Là.
Ouais, mais reste
il y a beaucoup d'écart. T'as raison qu'il y a beaucoup d'écart entre les deux. Là,
non, mais c'est parce qu'on triche. Présentement, on triche. Pis, les gars ont commencé à trouver... Excuse-moi, Philo, là, je suis parti. Excusez-moi, je vais me calmer après. Excusez-moi. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on commence à se trouver bon chez les Canadiens. On se regarde dans la baie vitrée, puis on se trouve cute, puis on se trouve bon. Puis on a été Toffoli, première étoile, mais été parmi les étoiles la semaine. Jeff Petrie également. Puis là, je trouve que on s'en vient fancy. Puis quand t'es fancy, t'oublies la prémisse de base du hockey. C'est quand tu t'appelles pas le Lightning de Tampa Bay... Pour tout le monde, après ça, c'est au pic et à la pelle. Et tu vas connaître du succès quand tu travailles, quand tu es là pendant 60 minutes, puis quand tu es humble dans ton travail. Et j'ai pas l'impression que c'est ça présentement chez les Canadiens.
En tout cas, écoute, moi, j'ai vu dans les dernières semaines beaucoup de joueurs se faire un peu malmener. On a eu 3 joueurs qui se sont fait étamper au niveau de la tête. On a eu plusieurs joueurs qui sont rentrés au vestiaire, revenus, retournés au vestiaire, reviennent et tout ça. Gallagher à plus d'une reprise. Je pense qu'il y a des gars qui se sont fait brasser puis qui ont pas aimé ça. Puis écoute, on voit plus personne aller au filet. Fini. Occasionnellement, une fois de temps en temps.
Josh Anderson.
Oui.
Gallagher fait encore.
Oui. Mais tu sais, on voit beaucoup de tirs qui viennent de la bande, des côtés, des tirs qui mènent à rien. Personne devant le filet pour essayer de ramasser ces rondelles-là. Présentement, on ne paye pas le prix. Je sais pas s'il y a des gars qui sont pas à 100%. Je sais pas si le long voyage dans l'Ouest commence à rattraper le Canadien, mais c'est clairement pas la même équipe. Tu sais, on a dit souvent dans les années passées, le Canadien fait bien paraître les gardiens adverses. On se souviendra toujours de la courte de Dominique Hašek. C'est le blanchissage le plus facile que j'ai eu dans ma carrière. Mais là, présentement, on est en train de rendre la vie facile aux gardiens adverses. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, c'est ce que je vois.
Il y a beaucoup de tirs qui viennent de la pointe. Là. Puis hier, ça a été souligné d'ailleurs pendant le reportage à RDS. Mais tu sais, 3 des 5 joueurs qui ont le plus tiré au but là, pendant la dernière séquence là, de 4 matchs, ce sont 3 défenseurs. C'est Petrie, Sherratt et Edmondson. Ils ont 13 puis 9 tirs chacun. C'est pas, tu sais, Petrie, oui, on s'attend à ce qu'il tire, mais tu sais, Edmondson n'est pas supposé être celui qui génère nécessairement de l'attaque là, dans l'équipe. Oui, en fait, on tire vraiment de loin. Je reviens là sur les centres. Là, j'ai regardé un petit peu la provenance des tirs. Puis c'est vrai là que les tirs sont faits de très très haut ou bas, en tout cas de plus proche de la ligne bleue que de la ligne rouge. Puis il y a pas tant de joueurs que ça qui reprennent la rondelle autour du filet. Donc oui, le Canadien génère un grand nombre de tirs au but, c'est souvent au 35, même 40, mais ce sont pas nécessairement tous des tirs difficiles.
Dans le cas de Gallagher, tu l'as trouvé bon hier, mais on est tellement habitué de le voir toujours être au-dessus de la mêlée, aller payer le prix, que là on dirait que on le voit un peu moins. Puis Gallagher, c'en est un qui est retraité au vestiaire une couple de fois dans les derniers matchs. Je sais pas s'il est peut-être pas à 100% lui aussi. On peut pas dire que la production est immense de son côté non plus. On est tellement habitué que ce soit lui le spark, comme okay, on dit.
Moi, je te trouve sévère, là.
ouais.
Vas-y, Guillaume.
Ben, c'est ça, non, je l'ai dit, c'est très drôle parce que moi, s'il y a une séquence que j'ai remarqué hier de Gallagher, c'est justement une séquence où il a été au but. Puis ça avait même valu Mike Smith qui lui a passé la mitaine sur le casque. Gallagher est revenu, je vous assure, je sais pas si on l'a entendu à la télévision, mais au septième étage du Centre Bell, on a entendu ce qu'il a crié en rentrant au banc. On l'a entendu claquer à la porte. Mais il a été au filet, il essaye. Cela dit, son centre est Philippe Danault. On sait que Philippe Danault se cherche offensivement aussi. Ça doit sûrement pas aider. Il y avait Thomas Tatar jusqu'à venir jusqu'au match d'hier. Il y avait Thomas Tatar comme ailier gauche qui lui aussi
cherche
énormément. D'ailleurs, j'ai quand même trouvé que c'était mieux avec Toffoli dans le match d'hier, donc on verra si ça va aider. Mais c'est ça aussi, le Gallagher n'est pas très, très bien entouré, je pense, en ce début de saison.
Moi, j'ai répertorié dans le match d'hier, là, je me suis dit, OK, qui est prêt à compétitionner? Je n'ai pas dit qui joue un bon match. Qui est prêt à compétitionner? Là, je regarde Jake Allen devant le filet hier, selon moi, il était prêt. Il était là pour jouer, puis il a connu un bon match. Brendan Gallagher était prêt à compétitionner. Ouais. Josh Anderson était prêt à compétitionner. Puis je vais y aller avec le quatrième trio. Le quatrième trio, Lekkonen avec Evans, avec Paul Byron, ces gars-là étaient prêts à compétitionner. Par moment, je suis d'accord avec Guillaume quand il parle de Tatar. On a vu quelques étincelles avec KK, entre autres. Mais tu sais, ça en prend plus que ça. Puis j'ai aucun défenseur là-dedans, là. Puis il faut que tout le monde soit capable d'amener. Ce qui a fait la force du Canadien, c'est ses six défenseurs et ses quatre trios. Ce qui fait la faiblesse du Canadien, c'est le manque d'apport des six défenseurs et des quatre trios.
Ouais. Écoute, je trouve que les débuts de troisième période, on a de la misère. Là. Hier, notamment, deux punitions dans les cinq premières minutes qui ont mené à un but sur le 4 contre 4. Ça a été la même chose contre Toronto. Au début de la troisième période, il y a eu deux buts rapides qui ont été marqués, qui ont scellé l'issue du Canadien. Mais écoute, on a fait quelques rotations, les gars dans les trios, mais j'ai pas l'impression que le problème, c'est un problème de jumelage. Excusez l'expression, je sais même pas si ça se dit, mais c'est un problème qui est plus généralisé. D'habitude, t'as un trio, t'as un spark, là tu dis, on va prendre ce spark-là, on va le mettre sur un autre trio, ça peut peut-être... Mais présentement, ça semble être un problème généralisé, puis je pense pas que, notamment, les changements de trio vont mener à quoi que ce soit, puis ça a pas mené à quoi que ce soit hier soir non plus, là.
Ben, j'ai l'impression que le problème avec lequel Julien est pris, c'est que là, en ce moment, il y a un trio qui marche, c'est celui de Suzuki. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu défais ce trio-là pour essayer d'en aider un autre, ou tu le laisses tel quel, puis t'espères que les trois autres trios trouvent une solution, génèrent de l'attaque, tout ça. Au fond, Claude Julien se ramasse avec le même problème qu'on a vu de temps en temps dans les deux dernières années, quand c'était le trio de Dano qui était le seul qui fonctionnait, puis il était à la recherche de solutions ailleurs dans sa formation. Simplement que là, ben c'est ça, c'est un autre trio qui fonctionne comme ça, mais clairement, je pense que c'est solution pour relancer des gars. Malheureusement, c'est quelqu'un parmi Suzuki, Drouin ou Anderson. Sauf que, ben, parce que là, c'est ça, je veux dire, tu veux relancer Kotkaniemi, tu lui envoies Thomas Tatar ou vice-versa. Je suis pas sûr que ces deux gars-là, en ce moment, jouent avec l'aplomb nécessaire pour se relancer l'un l'autre, pour relancer un trio. Là.
Les gars, on a parlé beaucoup de l'importance de faire des rotations dans l'effectif. Les deux premières semaines, ça a été, disons, assez stable. À un certain moment donné, Claude Julien a commencé à faire des rotations. Il y a eu quelques joueurs, des petits pépins physiques, une couple de gars blessés, mais on a aussi fait des rotations pour garder des gars actifs. Mais curieusement, bon, je pense qu'on était tous d'accord que c'était important de le faire, mais depuis ce temps-là, l'équipe a perdu un petit peu je dirais pas de la chimie parce que c'est pas la chimie le problème, mais on dirait que c'est arrivé en même temps. Les changements dans l'alignement sont arrivés en même temps que les défaites. Y a-t-il un lien à tisser entre les deux?
Je pense pas, moi. Je pense qu'il faut plutôt observer le fait qu'il y a deux gars depuis le début de l'année qui monopolisent l'attaque du Canadien. Tyler Toffoli, Josh Anderson. En quelque part, il y a tout le monde présentement qui regarde ces deux gars-là pour dire « Hey, est-ce que vous continuez à marquer des buts? » Ben non, à un moment donné, il faut que nous autres aussi on embarque. Comment ça marche? Je pense qu'il y a du monde qui sont un peu spectateurs présentement chez le Canadien. Et je pense pas que c'est une question de trio. Je pense pas que c'est une question, comme tu l'as mentionné, je pense pas que c'est une question de trouver des meilleures combinaisons. Je pense que c'est juste une question, premièrement, ça arrive dans une saison, ce qui se passe. Je pense pas que le Canadien, c'est un club qui est pas bon, là.
Pas du tout.
Je pense que ça va se placer. Mais je pense que c'est une question de confiance présentement. On a comme pas confiance. On fait oups, on a un doute. Le doute s'est installé un peu dans l'équipe. Puis sais-tu quoi? Moi, je vais te dire quelque chose. Là. Sincèrement, pour moi, qu'est-ce qui va relancer tout ça? Là? C'est une solide performance de Carey Price devant le filet. Quand Price va être solide devant son filet, là, square, là, je parle pas de faire des arrêts au bout de la tête puis tout ça, mais quand il va être vraiment solide, là, qu'on va retrouver un gardien de but qui fait des gestes simples, qui est pas rendu tourné à faire un 360 à côté du filet, là, mais des gestes simples, qu'on sent confiance, moi, je pense que c'est ce qui va relancer cette équipe-là.
Moi, je pense que les deux dernières games, les gardiens sont pas vraiment à blâmer. Ils leur ont donné une chance.
Ben oui, ben clairement, pas du tout. La seule affaire,
pas
c'est que
c'est ben pas c'est ça, l'image. Ils n'ont pas volé une game.
Mais l'image de Carey Price, présentement, là, je sais pas, Alexandre puis Guillaume, ce que vous en pensez, là, s'il y a quelqu'un qui me dit que ça l'inspire confiance que tu vois de Carey Price devant le filet, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Non, effectivement. Puis je vais même me permettre d'anticiper une question de lecteur qu'on a pour plus tard, mais son langage corporel, effectivement, c'est le langage corporel de Carey Price quand il cherche. Et là, je parle pas seulement sur les buts qu'il accorde, mais aussi sur des chances de marquer de l'adversaire. Je l'ai souvent vu dans les derniers matchs sur des chances de marquer. Si tu regardais seulement Price, là, t'étais convaincu que l'autre équipe avait marqué parce qu'il y avait un langage de gars défait un peu, qui avait l'air, découragé, si on veut, de la dernière séquence, peu importe, ou d'avoir abandonné. Je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est clairement pas un bon langage corporel qui déploie en ce moment. Mais c'est ça, c'est le genre de choses, ça, comme Jérémy dit, ça peut prendre un bon match, mais ça donne une grosse performance et puis ça revient.
Ouais, c'est la question de Mathieu Boivin. On va la lire tout de suite, comme ça va être réglé. Donc, que pensez-vous de l'effet du body language, entre guillemets, de Carey Price qui reste de l'équipe lorsqu'il accorde un mauvais but? Donc, on dirait qu'il semble abandonner plus facilement par la suite quand il reçoit un tir et s'amène à un autre but, bien souvent pas inspirant pour l'équipe. Donc, on aura fait le tour de cette question-là. Bon, écoutez, je pense que Carey Price, on l'a dit depuis le début de l'année, on s'attend à plus. C'est pas, il vole pas de match jusqu'à maintenant. Jake Allen en a volé peut-être un. Mais je pense que pour revenir, on parlait tout à l'heure du fait qu'Anderson et Toffoli étaient les deux seuls marqueurs. Je pense que ce qui faisait le plaisir de bien des gens au début de l'année, c'est qu'on disait tout le monde qui allait marquer dans cette équipe-là. Et tout le monde marquait. Mm-hmm. T'avais Tatar qui marquait un but, t'avais Drouin marquait un but, Suzuki marquait un but, puis tout ça. Là, présentement, ça repose sur les épaules de deux joueurs et ça cause clairement problème. Les gars, on a parlé un petit peu de la situation dans le cercle des mises en jeu. On l'a répété, là, ça a été compliqué encore une fois hier pour deux joueurs de centre du Canadien, notamment le Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, 33% chacun. Quand tu gagnes, tu dis « Bon, ben garde, c'est pas grave, on continue à travailler là-dessus, on ramasse des points quand même. » Mais quand tu perds, à un moment donné, l'entraîneur va falloir qu'il commence à chercher des solutions. C'est-à-dire « OK, on va te donner de la corde, mais on a aussi besoin de ramasser des points présentement. » Donc, peut-être qu'il y en a un qui saute son tour ou qui prend moins de mise en jeu ou qui cède sa place occasionnellement. C'est quoi les solutions de rechange?
Ben, il y en a pas tant que ça. Honnêtement, il y a pas tant de solutions de rechange. Une des solutions, c'est demander aux jeunes de travailler davantage lors des entraînements, puis ils travaillent, puis ils travaillent, puis ils travaillent, puis ils travaillent.
Ça prend du temps.
Oui, ça prend du temps, mais c'est ça. Il faut juste comprendre une chose. On regarde, là, mettons, Philippe Danault a un bon pourcentage au cercle de mise en jeu. Jake Evans a un bon pourcentage au cercle de mise en jeu. Pour le match d'hier, je pense que Jake Evans a commencé le match, à moins que je me trompe, contre McDavid, quelque chose comme ça, a été opposé à McDavid quelques fois pendant la rencontre, mais pas plus que ça. Tu sais, la qualité du joueur de centre du quatrième trio dans les autres clubs n'est pas la qualité du deuxième joueur de centre puis du troisième que Suzuki affronte. Moi, je pense qu'il faut se rendre compte de tout ça. Maintenant, c'est du travail. C'est simplement du travail. Puis je l'ai dit, le support des alliés aussi. Il faut que les alliés arrivent plus rapidement pour aider les joueurs de centre qui n'arrachent. Mais c'est un moment à passer. Mais t'as pas d'autre option. Je sais pas, là, on remettra pas Drouin au centre. Je sais pas comment vous voyez ça, vous autres. Là.
Ben, tu sais, je répète, c'est que Drouin est quand même un bon joueur au cercle des mises en jeu. Là, c'est pas dramatique. Il est à 64%.
Ben, c'est ce que je dis.
Un petit échantillon, mais non. Il va falloir que... Non, mais comme disait Jérémy, il va falloir que ça passe par l'entraînement. Là. Puis tu sais, ce qui est un peu... ce que j'imagine qui doit être assez difficile présentement pour Claude Julien, tu sais, c'est d'être capable de mettre Kotkaniemi dans certaines... Même Suzuki, dans certaines situations, il voudrait les mettre, mais où... Tu es obligé d'envoyer Dan ou Evans, mettons, en zone défensive, faut prendre des mises au jeu. Écoutez, cette année-là, Dano est à deux fois plus de mises au jeu prises dans sa zone que Kotkaniemi, là. C'est 45 contre 89, là. T'sais. Fait que, à un moment donné, Dano prend beaucoup plus de mise au jeu. Puis là, les gens se plaignent. Ah oui, mais comment ça que Dano, il est sur la glace, même s'il marque jamais de but? C'est parce que le Canadien a la rondelle au début de la séquence, là. Fait que, oui, tu sais, ça surcharge un petit peu. Moi, je trouve que c'est beaucoup de pression mise, en fait, sur deux centres parce que les deux autres ont beaucoup plus de difficultés. Et ça se règle par l'entraînement, mais on peut pas accélérer ça non plus. Ils deviendront pas des joueurs à 55% de taux de réussite cette année, là. J'y crois pas, là. C'est un art qui
C'est ça. C'est que là, à un moment donné.
Ça prend vraiment beaucoup de temps à développer, là.
C'est faut que t'équilibres, tu sais, le fait que tu veux que ces gars-là apprennent, donc tu veux pas les sortir de là complètement, mais en même temps, il faut que tu gagnes des mises en jeu. Parce que trop souvent, on commence la séquence sans avoir la rondelle. T'sais, tu parlais de Drouin tout à l'heure. Je veux dire, on a déjà vu ça dans le passé, là. Un ailier qui prend les mises en jeu, puis une fois que le jeu est lancé, ben, il reprend sa position. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas impossible non plus. Une fois de temps en temps. Là, j'ai de la difficulté.
Le Canadien le fait parfois.
Mais hier, tu vois, regarde, il y a juste quatre gars. Il y a juste quatre gars qui ont pris des mises en jeu hier.
Non, mais tu sais, tu regardes Suzuki, il y a 68 mises au jeu cette année dans sa zone. Il en a gagné 28. Mm-hmm. C'est pas beaucoup, là.
Non, c'est ça. Mais hier, là, spécifiquement, t'as quatre gars qui ont pris des face-offs. Excusez. That's it. Il y a personne d'autre, là. Donc, il y a personne qui a été chassé du cercle de mise en jeu ou quoi que ce soit. Commencez-vous à trouver que les matchs commencent à se resserrer un peu défensivement? Déjà, on est au cinquième de la saison, là, ou près du quart. Non, mais c'est vrai.
Non, ben tout à fait. Tout à fait, parce que je me souviens du particulièrement le premier voyage du Canadien, puis ça avait presque l'air d'une séance de tir de barrage, là, tellement qu'il y avait des échappés, puis des deux contre un, puis c'était un surnombre après l'autre. Et puis, ben c'est surtout ça, je pense, qui manque au Canadien, puis c'est de là que le Canadien tirait une grosse partie de son attaque. C'est justement ces surnombres-là que l'équipe réussissait à créer, soit dans le jeu de transition ou soit en désavantage numérique là, contre des équipes, on dirait, qui se méfiaient pas assez. Donc oui, effectivement, je pense que c'est pas une illusion, le jeu se resserre, mais ça demeure, je pense, la suite logique de ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire pas eu de camp d'entraînement et les deux premières semaines de la saison ont ressemblé à un camp d'entraînement.
Le jeu se resserre, sauf pour le Canadien. Non, mais c'est vrai
par exemple, t'as raison.
C'est vrai. Le Canadien, eux, sont restés dans le mode où on joue du hockey dans la rue.
Ils voulaient que ça reste dans la même.
Exactement.
Autres,
non, on est heureux.
Mais tu prends goût à un moment donné.
C'est ça, c'est le fun, c'est spectaculaire, c'est pas trop demandant physiquement, c'est de la longue passe, c'est palette à palette, ça va bien. Sauf que là, tout le monde a dit attention, on va affronter un club qui va nous battre, puis si ce club-là part tout seul, ben nous, ça nous enlève une place pour les séries de fin de saison. Donc, on a regardé le Canadien, on a resserré notre jeu, sauf que les Canadiens, défensivement, ça demeure présentement une réelle passoire. Fait qu'à partir de là, tant aussi longtemps que le Canadien ne resserre pas son jeu, ne pourra pas prendre possession rapidement de la rondelle, ne pourra pas lancer des contre-attaques et ne pourra pas profiter à nouveau de ces largesses offensives que les autres gardiens ont données depuis le début de la saison. C'est con, mais tout commence par la défensive.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui a un petit peu faussé les données, là, c'est d'avoir joué si souvent contre Vancouver, qui a vraiment une très, très, très mauvaise défense.
Ouais, mais Vancouver a battu Calgary. Calgary a battu le Canadien. Tu sais,
Ce que je veux dire, c'est peut-être que, tu sais, on s'est beaucoup excité parce qu'il y a eu quand même plusieurs matchs consécutifs contre Vancouver. Puis, hey, wow, tu sais, on est extraordinaire. Puis, Vancouver, ils sont supposés avoir des bons, ben, tu sais, Quinn Hughes est supposé être un bon défenseur. Mais finalement, tu sais, peut-être que tout ça, c'était un petit peu de poudre aux yeux aussi parce que, à mon avis, Vancouver, écoute, à part Ottawa, là, c'est pas mal dans les pires défenses de toute la Ligue nationale.
Ouais.
Tu sais, il y a moins de matchs serrés comme l'année dernière parce que les gros clubs aussi sont pas dans la division Nord. Il y en a des bons clubs dans la division Nord, mais il y en a plus dans les autres divisions aussi. Là.
Ouais, puis écoute, je me souviens, pas c'est qui d'entre nous qui avait dit au début, je pense que c'est toi, Jérémy, les matchs se passaient bien, c'était spectaculaire. Puis là, à un moment donné, tu avais dit quelque chose comme, je pense que ce qui pourrait le mieux leur arriver, c'est une défaite pour les réveiller, pour qu'ils se rendent compte que c'est pas ça, ça va pas être ça toute l'année ou quelque chose comme
ça. C'est quoi? Moi, la seule chose, c'est que je suis déçu que ça prenne quatre matchs. Et c'est peut-être là, moi, où j'ai été leurré, c'est que le fait qu'on amène tellement d'expérience de gars qui ont gagné la Coupe Stanley, d'aller chercher des vétérans, c'est là que je me suis fait leurrer parce que je ne croyais pas qu'on pouvait être aussi longtemps sur l'écran de veille. Je pensais pas que c'était pour arriver. Je me suis dit, OK, on peut peut-être...
Parce qu'on disait, une défaite, c'est correct, mais après ça...
Jeff Petrie a dit, on ne veut pas perdre deux matchs de suite. On vient de le faire, mais ça fait quatre matchs où on sent un club qui est désengagé. Fait que je me dis... Là, il va falloir qu'à l'interne, qu'on commence à prendre les choses au sérieux. C'est peut-être là, moi, où je suis un peu déçu, c'est que, vous allez me dire, c'est rien, quatre matchs dans une saison. Ben c'est beaucoup dans une saison de 56 matchs par contre. Ouais. Avec la COVID, puis on peut avoir moins de matchs que ça. Ouais. C'est énorme. Fait que c'est pour ça que je dis, ouais. ça me déçoit un peu, mais j'espère encore que ça va se replacer.
T'sais, avec le changement à domicile, le dernier changement, bon, je lisais des gens qui disaient peut-être que Claude Julien s'est out-coaché lui-même. Là, il a essayé de trouver. Moi non plus, je pense pas que ça n'a rien à voir. Non, non, c'est ça. Puis peu importe le trio, puis peu importe contre qui, ils sont pas là. Donc c'est pas une question de matchmaking.
Non, mais c'est drôle. Quand le Canadien a perdu, Carey Price est devant le filet, on disait, moi je vous dis, le soir, là, c'était la faute à Carey Price. Là, hier, c'est Jake Allen qui était là, fait que c'est pas la faute à Jake Allen. Là, c'était la faute à Claude Julien. Là, j'ai dit au monde, j'ai dit, là, pouvez-vous arrêter d'essayer de trouver, de mettre ça sur la faute à quelqu'un? Ça se peut-tu que le club, collectivement, en arrache? Tu sais, c'est pas juste un individu, c'est un ensemble de facteurs présentement qui fait en sorte que le Canadien est pas compétitif.
Et ceci dit, les gars, écoute, c'était quand même 1-0 seulement contre les Maple Leafs après deux périodes. Si je me trompe pas.
Ouais, mais disons qu'il y avait pas mal de chances de marquer
oui,
des livres.
Absolument. Puis hier, on était à 2-0 après deux périodes. C'était pas encore réglé. Mais bon, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le début de la troisième a fait mal. Bon, les gars, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour de ceci, on va parler de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Alors, nous voilà de retour et maintenant, c'est le temps de parler de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale, mais ça donne que dans notre premier sujet, ailleurs dans la Ligue nationale, ben ça s'est passé chez nous. Parce que on a modifié le protocole de la COVID. Là, l'Association des joueurs et la Ligue nationale de hockey ont ajouté des éléments à cette entente-là. Là, on pourra peut-être rentrer dans les détails, mais hier soir, le match a été repoussé d'une heure à cause du test positif de Jesse Puljujärvi. On a testé une deuxième fois les joueurs des Oilers d'Edmonton. Là, la question que je pose, c'est est-ce que c'était sécuritaire de jouer ce match-là quand même? Moi, les gars, là, je ne sais pas, là, mais on se fait casser les oreilles depuis un an que quand tu rentres au pays, il faut que tu fasses une quarantaine de 14 jours. Pourquoi? Parce que le virus peut être en toi et tu pourrais ne pas tester positif avant 14 jours. C'est pour ça que tu restes chez vous pendant 14 jours. Là, il y a un joueur des Oilers qui teste positif. On check les gars des Oilers le lendemain. Ah, c'est bon, ils l'ont pas.
Ben non,
on joue. Moi, j'étais content.
T'es juste un frustré de la MLS, toi. C'est juste pour ça. Non, parce que t'es choqué, t'aurais aimé ça que la MLS fasse ça aussi.
De pas pouvoir voyager, puis tout ça. Non, mais je comprends plus rien.
Ben oui,
parce que ça a l'air que c'est supposé prendre 14 jours. Là, il y a un gars qui teste positif le lendemain. On joue pareil. Et est-ce quelqu'un qui peut m'amener là-dessus? Guillaume, je sais que t'as beaucoup suivi les Oilers hier. C'est quoi qui s'est passé, coudon, là-dedans?
Ben c'est ça, mais en fait, moi je pense que c'est plus côté communication et transparence qu'on a fait défaut parce que premièrement, arrive hier matin, Puljujärvi est passé à Dallas, tout le monde sait qu'il est pas blessé là, tu sais. Mm-hmm. Le coach après l'entraînement dit juste il est pas là par mesure préventive, veut pas dire quoi que ce soit de plus. Après ça, arrive au match et c'est Koskinen qui est retiré du match, qui est retiré de la formation, même affaire après le match, le coach veut rien dire, dit non, je commande pas ça. Ça. Mm-hmm. Bref, à force de ne pas commenter comme ça, les équipes créent beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions, de spéculations, de rumeurs, de peu importe.
Là, je te rejoins. La MLS, c'est de même tout le temps, Jersey. Tout le temps.
C'est ça. Puis c'est parce que là, après ça, ce qu'on apprend ce matin, puis Brendan Gallagher l'a évoqué dans son point de presse hier, c'est que c'était possiblement un faux positif. Pas un faux positif, mais disons le premier test de positif. Puljujärvi, celui qui a sonné l'alarme, c'était un test non concluant. Puis là, ben après ça, il a présenté des tests négatifs. Donc, me semble que c'est le genre de choses qui s'explique, qui dit, regardez, on a un joueur qui, à la limite, il n'identifie-le pas. De toute façon, les gens vont le savoir quand même. Toute la journée, les gens savaient c'était qui de toute façon. Mais à la limite, si tu dis simplement, on a un test non concluant, on attend l'autre résultat. Puis tu l'expliques. Puis déjà, en l'expliquant, je pense que tu fais beaucoup baisser la température. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas du tout. Puis je veux dire, donc moi, je trouve que au niveau de la communication, il y a un bien meilleur travail à faire de ce côté-là.
Avez-vous entendu les propos de Ben Chiarot après le match?
Non, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, tu sais, on est obligé de faire confiance à la Ligue nationale. C'est sûr, c'est stressant. Tu sais, on a des familles. Mais imaginez-vous, là, les gars embarquent, ne sachant pas s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient l'avoir parce qu'on ne sait pas si le test était bon.
C'est tellement bizarre.
Tu sais, en quelque part, je me dis, on est où, là? T'en fais-tu des tests? T'en fais-tu tout le temps? Comment ça se fait que là, t'arrives le matin du match? Puis c'est pire, quand on est arrivé avec le joueur des Golden Knights de Vegas, qu'on l'a sorti pendant le match.
Non, mais ça n'a pas de bon sens.
Comment ça se fait que le gars s'est rendu jusqu'au match?
Regarde, tu sais, sérieusement, les gars, là,
Le baseball majeur s'est fait rincer toute l'année, je veux dire, pour son protocole. Puis, tu sais, souvenez-vous du dernier match quand Justin Turner en série mondiale a été retiré en deuxième manche parce qu'on venait d'apprendre qu'il y avait la COVID. Puis là, tout le monde s'est dit, ben voyons donc, comment ça se fait qu'ils ont commencé le match sans avoir lu les résultats? C'est quoi ça? C'est exactement ce qui s'est passé dans la Ligue nationale. Puis, à mon avis, tu sais, faut pas croire que c'est un cas isolé ce qui est arrivé chez les Golden Knights. D'ailleurs, ça n'a pas été commenté comme ça. Mais tu sais, je veux dire, quand est-ce qu'ils ont les résultats pour chaque partie exactement? Je serais vraiment curieux. Par exemple, le match contre le Canadien, le début du Canadien contre les Oilers, le début a été reporté parce qu'on voulait avoir des précisions sur des tests. Est-ce que ça se passe comme ça, comme souvent? À quelle heure on a les résultats des tests? À tous les jours? Il y a quelque chose d'anormal, à mon avis, de jouer un match quand tu connais pas le résultat d'un test que tu viens de passer. Mais écoutez, dans la société en général, là, dans la société, si moi je vais me faire tester aujourd'hui, là, j'ai même pas le droit d'aller à la pharmacie ou à l'épicerie là, avant de recevoir le résultat du test. Là. Eux, ils se promènent comme si de rien n'était. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce protocole-là quand hier, dans le renforcement des mesures, la Ligue nationale doit dire, écoutez, vous devez rester à la maison le plus possible, puis votre entourage aussi. Voyons donc, c'était pas déjà le cas. C'est comme ça pour tout le monde dans la société.
Écoute,
aux États-Unis. Non, mais aux États-Unis, c'est différent, tu sais.
Je le sais.
Le Canada, c'est quelque chose.
Ben, tu sais, ce qu'on m'a dit, moi, cette semaine, c'est que le protocole n'est pas le même au Canada puis aux États-Unis.
C'est vrai.
Les provinces canadiennes n'auraient pas laissé jouer les équipes canadiennes avec ce qui est en vigueur présentement aux États-Unis. Mais tu sais, ce que ça montre, c'est que tant que tu n'as pas de bulle hermétique, tu sais, il va en avoir des éclosions, là. Puis, c'est la pointe de l'iceberg, ce qui se passe présentement.
Non, ben, écoute, moi, j'étais juste content qu'on ait une game hier soir, là. Je vais vous le dire, là. Moi, je suis selfish, là.
Il est là, le problème.
Moi, je l'ai regardé une game.
Non, mais il est là, le problème.
Quand j'ai dit à mon fils, la game commence à 8h, là, il dit, ouais, mais là, moi, faut jamais coucher à 10. Ben, c'est ça, tu vas manquer à 3e. Ben,
exact.
Là, il est en tabarouette, là.
Mais il est là, le problème. C'est que l'aspect business de ça, il faut pas que ça prenne le dessus sur l'aspect sécuritaire. Mais là, attends, là. C'est parce que, tu sais, on rigole, là. Mais je vous rappelle qu'un duel entre les Devils du New Jersey puis les Sabres de Buffalo a fait en sorte qu'il y a une dizaine de joueurs de chaque côté qui ont attrapé le virus, que les officiels ont attrapé le virus, puis le coach des Sabres de Buffalo, qui a 60 quelques années, Kruger, a attrapé le virus aussi. Tu sais, à un moment donné, on se calme, là. C'est le fun, c'est cute, là, dire « Ah, je l'ai pogné, puis je suis correct. » Non, mais attendez, c'est parce qu'il y en a qui peuvent virer croche, là.
Non, mais c'est ça. C'est que ce que je me dis, c'est que ce qu'on fait, nous, dans la société, dans la Ligue nationale, on le fait pas du tout, mais en tout cas, on semble quand même bien s'en tirer en général, au moins dans la division canadienne jusqu'à maintenant, ça va quand même bien. Les gars, on a eu des nouvelles majeures cette semaine du côté de Pittsburgh avec l'embauche de Brian Burke comme président des opérations hockey et Ron Extall comme directeur général. Premièrement, écoute, c'est sûr, Ron Extall en Pennsylvanie, mais pas avec les Flyers. C'est bizarre. Je sais qu'il a fait d'autres clubs quand même, là. Il s'est promené là dans ses années comme gestionnaire. Et là, Brian Burke, un vieux de la vieille, on essaye d'avancer, on essaye de s'en aller vers l'avant. Brian Burke, on sait que c'est le genre de gars qui, tu sais, c'est good old hockey time, là, good old hockey boy. J'ai été surpris de la direction dans laquelle s'est en allé les Pingouins.
Mais pourquoi t'as été surpris,
Non, c'est parce que c'est normalement, c'est une organisation qui est, je sais pas, un peu plus progressiste, ou je me trompe, en termes de mentalité. C'est quand même, tu sais, une organisation de prestige, qui a gagné des coupes, qui a...
Non, mais moi, j'ai plus l'impression parce qu'ils voulaient avoir des feux d'artifice. Ils vont aller chercher du monde pour faire des feux d'artifice.
C'est ça qui va arriver. Malkin dans ton équipe, là.
Ouais, mais c'est ça. Mais t'en fais plus de feux d'artifice. Depuis quelques années, ça faisait 2 ans de suite qu'il était sorti au premier tour. Tu fais pas de feux d'artifice. Si on me dit, puis là, Alexandre, Guillaume, vous êtes des gens sages, vous allez m'informer. Si vous me dites qu'on a été chercher Ron Extall puis Brian Burke pour garder le trio infernal de Crosby, Malkin, le temps là-dedans, moi, je comprends plus rien, là. Est-ce que c'est ça, vous pensez, Alexandre?
Ben non. Moi, je pense qu'il y en a au moins un, sinon deux des trois
c'est
qui
clair.
Vont être bientôt sur le marché des joueurs autonomes.
Puis eux autres vont faire la sale job.
Oui. J'ai cru comprendre qu'on a demandé à Crosby, là, j'ai vu ça passer cette semaine, qu'on a demandé à Crosby s'il voulait faire partie de la relance, puis que Crosby se montrait ouvert à ça. Mais je crois que les deux autres vont se retrouver sur le marché dès que les Pingouins vont être hors des séries, ou en tout cas que le Bessic va dérailler, disons. Mais moi, je trouve, tu sais, Brian Burke, c'est quand même quelqu'un qui a une réputation d'être très efficace. T'sais, c'est un patron qui est capable d'abattre du travail, qui est respecté partout. Si tu t'en viens avec une équipe qui va bientôt être, tu sais, très jeune, puis que tu vas devoir convaincre des joueurs de venir joindre l'équipe comme joueur autonome pour encadrer ces jeunes-là, tu sais, c'est quelqu'un qui peut être persuasif, je pense. Je pense pas que ce soit du tout un mauvais geste là, des Pingouins d'avoir embauché Brian Burke. Ben, pour Exxon, on va voir aux premières transactions là, qu'est-ce qu'il va être capable.
Mais ça prenait peut-être des gars avec une personnalité assez forte, justement, pour poser ces gestes-là, dont vous mentionnez, Guillaume. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses.
Ben moi ce que j'ajouterais à ça, c'est que tu sais, Ron Extall, oui, on se souvient de son tempérament explosif sur la patinoire, puis il y a peut-être encore un tempérament explosif là, ça on le sait pas, mais comme gestionnaire, ça demeure quand même, je trouve, un gestionnaire qui a quand même fait du bon travail avec les Flyers, qui a pas nécessairement jeté l'argent par les fenêtres là, pendant tout le long de son règne. Il y a peut-être le contrat, le dernier contrat de JVR là, qui était pas son meilleur, mais je veux dire, sinon c'est quand même un gars qui a bâti une bonne base pour les Flyers, puis une grosse partie du noyau des Flyers qu'on a vu l'été dernier éliminer le Canadien, ben tu sais, ça a été l'œuvre de Ron Extall. Donc c'est quand même un gars qui est capable de bâtir quelque chose. Ce qu'il faudra voir, c'est justement comment il va gérer ce panier de crabes là qui est de comment gérer le noyau, big three, si on veut, des
Faut pas qu'il se trompe,
mais tu sais, je veux dire, à long terme, je pense quand même que c'est un DG qui peut faire du bon travail si on lui donne le temps de s'installer puis de faire ce qu'il y a à faire là.
Ouais, mais Guillaume, écoute, il y a un petit bout, je suis pas d'accord là, quand tu dis on a vu l'œuvre de Ron Extall avec les Flyers qui ont éliminé Canadiens, excusez-moi, là, la meilleure équipe, c'était pas les Flyers, c'était le Canadien de Montréal, qui a décidé à date limite de transaction de liquider ses joueurs parce qu'il pensait pas faire les séries. Fait que je suis pas sûr que c'était une méga performance. Puis dans un deuxième temps, ce que je voudrais ajouter, c'est que, tu sais, Brian Burke, c'est un gars de résultats, mais c'est un gars qui fait pas attention non plus à tout ce qui est alentour de lui. Les Penguins de Pittsburgh, c'est un club qui sont déjà hypothéqués pour les choix repêchage. Si tu veux relancer ton équipe pis t'as Brian Burke dans ton bureau, ça se peut qu'il y a une coupe de choix repêchage qui passe par là pour avoir des joueurs. Là, ben,
c'est sûr que Burke, où il en est dans sa carrière, il n'est pas là pour gagner dans 5 ans.
Non.
Mais c'est là justement que je trouve que c'est un mariage intéressant. C'est-à-dire que tu as Extall qui, je pense, est plus jeune, il peut quand même justement lui voir à long terme. Puis Brian Burke, de l'autre côté, lui, qui veut pas gagner sa bague de la Coupe Stanley.
Fait que là, tu es en train de me dire que Ron Extall va jouer le rôle de la bonne police, là?
Dans les deux, sûrement.
Je penserais pas. Les gars, il y a deux semaines, quand la transaction a eu lieu, Pierre-Luc Dubois pour Patrick Laine, on s'est posé la question ici, est-ce que ça peut faire du millage Patrick Laine et John Tortorella? Parce qu'on s'est tous dit, à première vue, ça a l'air de deux gars qui s'entendront pas nécessairement. Patrick Laine est pas un joueur qui aime nécessairement peut-être se replier, des choses comme ça. Là, c'était pas exactement ça, la situation. Mais moi, je suis tombé à mâchoire à terre, les gars, quand j'ai vu Patrick Laine sur le banc pour finir la deuxième et toute la troisième période. J'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, là, le Tortorella, il est en train de se pendre tout seul. Je connaissais pas l'histoire là à ce moment-là, mais j'ai dit, ça se peut pas. Le gars vient d'arriver et il avait marqué 3 buts dans les matchs précédents. Et là, première occasion, il laisse clouer sur le banc. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ben moi, je vais répondre là-dessus parce que moi, je suis vraiment tanné de ces tactiques-là de Tortorella, là. Ce que je trouve, tu sais, dans la vie en général, une chose qui est difficile comme employé, c'est d'être le résultat de sa dernière action. Tu sais, je vais prendre maintenant mon camp journalisme, mais tu sais, moi je veux pas être évalué seulement sur ma dernière chronique. Tu sais, je veux quand même être évalué sur l'ensemble de mes dernières chroniques. La même chose pour vous. Tu sais, vous êtes pas jugé à votre dernière journée au bureau. Là, vous aimez ça que votre patron prend en compte une plus grande période. Tu sais, puis moi d'être benché, tu sais, pour un ou deux chiffres sur lesquels t'as vraiment mal paru, hey, ça met une pression quand même, t'sais, immense sur le joueur d'être toujours sur.
Mais là, on a dit que c'était une conversation avec un assistant coach là, qu'il y a des mots qui auraient été dits là.
Ouais, mais Jerry, ça arrive tout le temps ça.
Ben, okay. Peut-être, t'sais, mais je veux dire, après ça, t'sais quoi, tu dois subir la caméra de la honte là, t'sais, puis d'être pendant 2 heures au banc des joueurs avec la caméra en face pour voir à chaque arrêt de jeu comment tu vas réagir. Il sait très bien ce qu'il fait en faisant ça, t'sais. Puis à un moment donné là, ça s'approche un petit peu du bullying, là, ce qui est en train de se passer chez les Blue Jackets. je trouve que ça envoie un très mauvais message et à tout le reste de la ligue, en fait. Sérieusement, là, attirer des joueurs autonomes après ça dans une... tout le monde voit ce qui se passe présentement, puis personne ne veut être le prochain sur qui Tortorella va tomber. T'sais. Moi, je trouve que c'est une très, 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 très mauvaise gestion, non seulement du talent, mais de l'image de l'entreprise. Ouais,
très d'accord. Guillaume, écoute, je veux dire, t'en regardes des matchs de hockey, je veux dire, des incidents comme ça, à l'interne, il doit en avoir une panoplie, et pourtant, les entraîneurs trouvent des façons de régler ces problèmes-là autrement que d'exposer le gars publiquement comme ça, là.
Ben, c'est ça, exactement, puis j'ai l'impression qu'une partie du problème avec John Tortorella, c'est que à chaque fois qu'il y a des incidents comme ça qui se passent avec, puis on sait qu'il y en a eu plusieurs dans les derniers mois, dernières années, il revient tout le temps à la culture qu'il veut établir dans son équipe et la culture dont il est donc fier et tout ça. Et j'ai aucun mal à croire qu'il est fier de cette culture-là. Tu sais, je veux dire, il se fait vider son club, ça fait quand même deux années de suite qu'il mène son équipe au deuxième tour des séries. Tu sais, je veux dire, de façon générale, c'est un gars qui soutient le maximum des effectifs qu'il y a. Donc, je le comprends d'être fier de cette culture et d'y tenir, mais c'est que ça devient un petit peu dogmatique à un certain point. Ça devient dogmatique, finalement, c'est comme si c'était la seule façon par laquelle il évaluait ses joueurs.
Excusez l'expression.
Ben c'est ça exactement. Puis je veux dire, à un moment donné, il faudrait falloir que son patron il parle puis et qu'il regarde ensemble comment justement gérer cette culture-là que tu veux implanter avec la nécessité de pas écœurer ton monde et de garder tes vedettes parce que il y a toujours bien des limites là non aussi à c'est ça à avoir tout ton talent s'en aller puis à soutirer le maximum de.
Non, mais tu sais, j'ai été patron là quand même pendant la majorité de ma carrière. Tu sais, c'est correct là de souffler le chaud et le froid, mais tu sais, tu souffles pas toujours juste le chaud non plus.
Non, c'est ça.
Non, mais ce qu'on voit, c'est juste le chaud. Tu sais, on voit pas quand c'est correct, là.
Mais les gars,
c'est correct, mais t'as raison, ouais. Mais tu sais, c'est comme, mettons, oui, je pouvais être insatisfait, tu sais, d'un travail d'un journaliste, une journée précise, mais tu sais, à un moment donné, tu peux pas... Tout le temps, est-ce qu'elle avoir la personne, tu sais, sur le bout des pieds. Mais c'est juste à un moment donné, c'est pas tout le monde qui réagit pareil à ce type de gestion-là. Puis ça doit pas être une forme. C'est ce que Michel Therrien avait dit qu'il avait le plus à prendre son premier, son deuxième passage. C'était que la communication, elle doit être personnalisée à chaque joueur. Il y a des joueurs qui prennent bien ce type de gestion-là, puis il y en a qui le prennent pas du tout, tu sais. Oui. Et j'ai l'impression que Tortorella ne fait pas la différence entre deux joueurs.
Mais c'est drôle que tu parles de Michel Therrien parce que j'allais dire dans un premier temps, tu sais, Tortorella sera bon tant aussi longtemps que son équipe sera capable d'aller en série de fin de saison. Si les Blue Jackets font pas les séries ou se font sortir au premier tour facilement, ça va être fini, Tortorella avec les Blue Jackets. Ouais. La seule chose, c'est qu'il y a toujours un club dans la Ligue nationale qui a besoin de fouetter son équipe.
Ouais.
Il y a toujours un président, il y a toujours un propriétaire qui trouve que son club est pas assez intense, qui fait pas la job comme il faut. Même le Canadien a été chercher un gars qui s'appelle Michel Therrien qui est arrivé en disant « Il est mieux de comprendre ». Fait que donc, ça existe encore dans la Ligue nationale. Ouais. Il y a encore des organisations qui veulent avoir
ça. Gars, là, écoute, pour être un gars qui est un fils de deux parents immigrants italiens, je vois en Tortorella ce que j'ai vu toute ma vie en grandissant chez les Italiens dans des business, les boss. Ben oui, mais non, c'est ça, là, c'est du bullying, comme tu disais tout à l'heure. Moi, j'en ai vu toute ma vie. Là. C'est de même, ça marchait, puis même le père de famille, c'est un petit peu ça. Faut que tu bullies un peu tes enfants pour que, tu sais, t'es brasse puis tout ça, la discipline. Mais, tu sais, c'est ça que je dis. T'es pas dans un restaurant italien ici. T'es dans la Ligue nationale de hockey. Fait que les gars, ils gagnent des millions. Puis si t'es pas capable de garder une certaine ligne droite, à un moment donné, ils vont t'abandonner.
Je veux juste te confirmer que j'ai vu plusieurs coachs québécois qui faisaient la même affaire.
Bon, okay, c'est pas juste les Italiens. Tant mieux. Hey, les gars, je vais ajouter un petit sujet Ligue nationale. Ma chronique mode. Qu'est-ce que vous avez pensé des casques des Golden Knights assez spécial.
Écoute, moi là personnellement là, je suis prêt à tout. Après gants blancs, OK, les gants blancs ont été un choc pour moi parce que c'était trop. Donc un coup que j'ai accepté les gants blancs, là le casque couleur or, je me suis dit garde, c'est pas pire que le joueur du mois en Europe que le top scorer puis un casque différent, je dis garde, why not, allons-y, mais
tabarouette.
Je veux faire ça,
mais qu'il y ait une équipe comme ça dans la ligue qui joue un petit peu les hors la la loi puis qui brise les conventions. Honnêtement, moi, je trouve ça plutôt amusant.
Ouais.
C'est toujours le fun. Dans, qu'il y en a une, tu sais, écoute, le Canadien, ça serait épouvantable
s'il
y a
ça. Ça.
Mais qu'il y en a une qui sort vraiment du lot puis qui fait les affaires absolument différemment des autres. Honnêtement, je trouve ça vraiment sympa.
Ben, semble d'être l'autre équipe, l'autre bord de la glace à regarder ça. Je serais même pas capable de me concentrer sur mon plan de match. Je suis juste en train de regarder les cartes. Il y avait l'air du gars de Tron. Tu viens-tu le film Tron, là, avec la casse?
Juste
en or,
raconter,
là.
Quand j'ai joué junior.
C'est
là. Ouais, exact. Quand j'ai joué junior, là, nous autres, on, vous vous souvenez le casse de Matt Sundin?
Jofa, là.
Ouais, Jofa, ballon, là. Bon. On avait ça, OK? Junior 3, j'avais le casse Jofa, ballon. Mais attends, pire que ça.
Tu pas sa tête,
attends, pire que ça. Deux couleurs, bleu et blanc. Je vous le dis, là, on était gênés, nous autres même. On avait de l'air des clowns. On était bon, on avait un bon club, mais on avait de l'air des clowns. Hier, je sais pas si les gars, moi, des Golden Knights, étaient bien contents d'avoir ça sur le coco, moi.
Ça, je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
Là, j'imagine, les gars, hein, on porte ça?
Sérieux?
Non, c'est-tu vrai, ça? C'est une joke, là. C'est quoi l'affaire, là? Incroyable. J'avais vu ça. Guillaume, tu te rajoutais de quoi avant de passer à la pub?
Je te dirais que j'ai dit sur Twitter ce que j'avais à dire.
J'ai pas vu, vas-y donc, là, j'ai pas vu, moi, ça donne, j'ai pas vu.
Ah, ben, simplement que ça me faisait penser à la couronne que Macho Man Randy Savage portait dans le temps. C'est drôle d'avoir l'air de ça à lutte, mais au hockey, je sais pas, là.
C'est le genre d'affaires que Guillaume, tu portes.
Guillaume, c'est le genre d'affaires que tu portes dans la vie de tous les jours.
Oui, avec sa robe de chambre, là, il met sa couronne en or. Bon, on fait une petite pause, les gars, il nous reste deux questions du public. Alors, nous voilà de retour. On a fait la question de Mathieu Boivin. On a fait le tour de sa question un peu plus tôt à l'émission. Il nous en reste deux. Antoine Isoire nous demande, Claude Julien est-il l'entraîneur de la situation pour s'adapter en cours de saison? L'équipe était bien préparée pour la commencer, mais elle se fait rattraper par ses adversaires. On revoit l'équipe de l'an dernier, gaffeuse en arrière, frileuse en avant ou devant le filet. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi je vais débuter, je sais pas si les gars voulaient ajouter quelque chose après là, mais moi ce que je veux dire c'est que je pense qu'on se trompe de cible si on regarde du côté de Claude Julien présentement. Pour la première fois depuis longtemps, il y a des outils sous la main. Et pour ceux qui disent ouais, mais il est pas bon pour coacher les jeunes. Ben non, ouais, mais c'est un coach qui est défensif. Juste vous rappeler quand il a remporté la Coupe Stanley là, Lucic en avait 22, Marchand en avait 22, Bergeron en avait 25. Fait que tu sais, c'est un gars qui peut dealer tant avec les jeunes, puis il y avait des vétérans là-dedans là, il y avait des Mark Rickey qui en avait 42 là. Fait que donc, tu sais, il faut faire attention à un moment donné quand on cherche un bouc émissaire. Laissons le temps aller. Je suis convaincu que le Canadien va se stabiliser, ce qui n'est pas le cas présentement, mais ça va arriver. Je le souhaite le plus rapidement possible.
Les gars, quelque chose à rajouter là-dessus avant de passer à la question de Max?
En partant, il n'y en a pas tant que ça des jeunes là, dans l'équipe présentement. C'est quand même une équipe de vétérans là, ou de jeunes vétérans. Je pense que Claude Julien est encore la personne de la situation. Là. Je suis tout à fait du même avis que Jérémy.
Guillaume, peut-être que tu peux répondre à la dernière question, celle de Max Clermont qui nous demande, selon vous, est-ce que les ailiers des Canadiens sont positionnés trop bas en zone défensive, ce qui expliquerait la difficulté des Canadiens à sortir avec la possession de la rondelle du territoire?
Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est justement la base de ce que Claude Julien demande à ses joueurs, c'est de jouer de façon compacte, de jouer en unité de 5, et ça, ben ça implique que les alliés, que les attaquants de façon générale soient bas dans la zone défensive. Donc non, j'ai pas de problème avec ça. Puis de toute façon, plus les attaquants sont bas, plus les alliés sont bas, ben plus ça assure que Joel Edmondson et Ben Sherratt n'aient pas besoin de tenter des passes peut-être trop osé pour leur talent. Là. On s'entend qu'il n'y a pas de... Oui, le Canadien a une meilleure défense, là, mais il n'y a pas d'Eric Carlson dans ce groupe-là. Là. Il n'y a pas de relance. Jeff Petrie est très bon, mais bon, pour le reste, il n'y a pas de miracle qui se fait. Donc non, moi, j'ai aucun problème avec ça.
Bon, ben les gars, je pense que ça fait le tour pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Comme à l'habitude, Jérémy Rainville, Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt, les gars, je vous dis un gros merci. Merci aussi à Maxime P. Paquette et aussi à Claude Hébert qui se sont partagés le travail du côté de la mise en onde. Nous, on se retrouve lundi, les gars. Il va y avoir un match samedi contre les Maple Leafs. C'est le dernier avant une semaine de vacances en se croisant les doigts pour le Canadien et que ça puisse bien se passer pour qu'au moins ils puissent rentrer dans leur petit congé avec un sourire. Nous, on a toujours le sourire. Alors, bon week-end tout le monde et on se retrouve lundi. Bye bye.